Affaire Betaram, procès, le Squarneck, ces scandales ont en commun des enfants pour victimes. Des enfants qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été écoutés au moment des faits. Des enfants devenus adultes depuis lors et qui osent pour certains prendre la parole. Alors comment recueillir, interpréter la parole des enfants aujourd'hui? A-t-on encore du mal à les croire? Même si elles sont différentes, peut-on mettre à égalité la parole de l'adulte et celle de l'enfant? Pour en discuter, pour en débattre aussi, deux invités, Magali Lafourcade, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Votre ouvrage est paru aux presses universitaires de France dans la collection Que sais-je. Il est intitulé « Les droits de l'homme ». Face à vous, Jean-Pierre Rosenweg, bonsoir. Vous êtes magistrat honoraire, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny entre 1992 et 2014. Vous avez fait paraître « Les droits des enfants pour les nuls ». C'est paru aux éditions Force. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Je suis rentré donc à Betaram, j'avais 10 ans, et ça a été une période extrêmement difficile parce que à Betaram, c'était la terreur et personne ne pouvait imaginer que nous étions dans des mains à la fois de prêtres agresseurs. J'ai ici d'ailleurs, sur les 70 dernières années, tous les prêtres, tous y sont agresseurs, tous ces prêtres directeurs. Parfois, vous avez tous les éléments qui vous indique que y a un gros souci, et en fait, quand vous voulez pas voir, vous voyez pas. Nous, on considère qu'il faut partir des victimes, et les victimes, elles ont des solutions, et je peux vous dire que ça va être autrement efficace, et notamment la possibilité d'interroger les enfants, parce que s'ils sont préparés, les enfants, ils se livrent pas, évidemment, il faut que ce soit spontané. On est comme ça quand on est gamin.
La voix, le témoignage d'Alain Esquer, porte-parole des victimes de Notre-Dame de Betaram. Il s'exprimait devant les parlementaires. Magali Lafourcade, est-ce que ces deux affaires évoquées en introduction, l'affaire Betaram, le procès Le Squarneck, est-ce qu'elles ont en commun peut-être le fait de raconter qu'il est absolument difficile, complexe de recueillir la parole des enfants lorsqu'ils sont victimes au moment où ils sont victimes?
Oui, tout à fait. C'est extrêmement délicat comme opération. Donc, pour pouvoir arriver à mener des investigations, il faut partir d'une base, qui est la description des faits par la personne qui a été au plus proche de l'infraction, c'est-à-dire celle qui l'a vécue. Et c'est extrêmement, cette opération de dévoilement de la vérité est extrêmement difficile quand il s'agit d'enfants. Et donc il faut être particulièrement formé pour pouvoir arriver à recueillir cette parole. Et il faut que l'enfant soit dans les meilleures conditions possibles, mais surtout... Et évidemment, c'est ce que démontrent ces affaires, c'est qu'il faut que l'entourage soit apte à voir ce qui se passe, décèle les signaux, et que la société soit apte aussi à reconnaître une responsabilité collective pour pouvoir mieux protéger et sentir que cette parole, en fait, ne sert pas juste à nourrir éventuellement un dossier qui serait classé sans suite éventuellement, mais aussi à changer le regard sur l'enfant, son intégrité corporelle, son discernement, etc.
Est-ce que c'est difficile aussi, par ailleurs, parce que la parole de l'enfant, le témoignage même de l'enfant, doit s'interpréter. Il ne se lit pas de la même manière qu'un témoignage d'adulte.
Alors, déjà, il faut distinguer entre l'enfant qui ne peut pas vraiment verbaliser et celui qui est en mesure de pouvoir poser des mots. Il y a des outils, il y a des protocoles pour les auditions des enfants. On peut utiliser une poupée de façon à ce que l'enfant puisse montrer où se situent certains attouchements. Donc, cela peut être effectivement interprété. On peut aussi demander à l'enfant de dessiner et interpréter ses dessins. Ce sera des éléments qui participeront à un faisceau d'indices. Mais évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que quand on a une parole qui est avec un récit chronologique, qui est avec des marqueurs temporels. Pour l'enfant, c'est difficile de se situer dans l'espace-temps, de dire si les choses ont duré longtemps, combien de fois elles se sont répétées, à quelle période ça se trouvait. Et il faut savoir que donc cette parole, qui est très facile à attaquer sur le plan de la solidité, la robustesse du récit, peut conduire à pousser la défense à des personnes qui ont été désignées comme auteurs de faits infractionnels, à contester toute chose,
à décrédibiliser,
à aussi faire une sorte de pression. On le voit pour les victimes adultes, puisque donc dans le traumatisme, quand vous avez subi des violences sexuelles, les traumatismes sont très forts, et même une victime adulte n'est pas toujours capable de restituer de façon chronologique, articulée, les faits et elle peut subir ces pressions-là de la défense de manière extrêmement violente. Donc on peut imaginer pour un enfant à quel point le retentissement peut être grave.
Je voudrais vous faire réagir, Jean-Pierre Rosenweg, à ces mots tenus par Thierry Baudet. Il est pédopsychiatre, il s'exprimait dans le cadre du procès Le Squarneck à la barre, c'était le lundi 14 avril dernier, et disait « Parler pour un enfant nécessite d'abord de se souvenir, mais aussi d'avoir compris qu'il s'agissait d'une violence, de se l'être dévoilé à soi-même. » Fin de citation. Il faut aussi que l'enfant réalise qu'il est victime, en fait.
Oui. Oui, bien sûr, mais pour rejoindre la question que vous posiez préalablement, c'est pas la caractéristique seulement des enfants. C'est la caractéristique de toutes les victimes. Les enfants souffrent d'une difficulté majeure, c'est non seulement d'être enfant, mais aussi d'être victime. Et historiquement parlant, la place des victimes dans le procès pénal français, depuis l'avant-révolution, depuis la royauté, elle est relativement faible. Le roi a assis son pouvoir en France en battant justice, en rendant justice. Et donc c'est une justice publique et pas une justice privée. Tout au plus, la victime est-elle incitée à porter plainte ? En oubliant d'ailleurs au passage qu'il peut y avoir des poursuites même quand les victimes ne portent pas plainte. Et à l'audience, on va la presser pour restituer ce qu'elle a vécu. Et après, on va la rejeter quasiment au fond de la salle. Je vous donne un exemple. À Bobigny, où je siégeais, tribunal qui a été inauguré en 1995 par Jacques Chirac, à l'époque.
Tribunal pour enfants. Hein.
Non, le tribunal de grande instance. Tribunal de grande instance. Je parle des victimes en général, pour venir aux victimes, enfants en particulier. Il n'y a pas de siège qui était prévu pour les victimes. On a été obligé de ramener deux sièges d'un bureau. Donc, quelque part, la victime était exclue du procès, a fortiori un enfant, qui est considéré comme l'infance, celui qui n'a pas de discernement depuis le droit romain. Et de l'autre côté, d'ailleurs, c'est un paradoxe, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. En réalité, la place des victimes en général, la place des enfants en particulier, dans la justice, a toujours été très faible. Et on est en train de monter en puissance. Deuxième idée générale, on a évoqué jusqu'à présent, dans notre propos, les enfants victimes. Mais le rapport des enfants à la justice, c'est pas seulement les enfants victimes. C'est les enfants, par exemple, concernés par le procès entre les parents qui se séparent, pour prendre que ce seul exemple-là. C'est parfois, devant le juge pour enfants, les procédures dites d'assistance éducative, pour soutenir et étayer les parents pour exercer leurs responsabilités. Et puis il y a aussi les affaires dans lesquelles les enfants sont en conflit avec la loi, sont délinquants. Vous voyez, il y a un champ très très grand dans lequel les enfants peuvent être appelés à s'exprimer, et c'est pas un exercice facile. Alors, la première question qui est posée, c'est dans quel champ peut-on s'exprimer ? Et il faut aussi qu'ils en aient connaissance. Exemple, est-ce que, pour les Français, un enfant n'a pas le droit d'aller au commissariat pour porter plainte et dénoncer ce dont il a été vécu, ce qu'il a vécu. Il doit être, pour les Français, être accompagné de quelqu'un, d'un parent. Ben non.
C'est faux.
L'enfant est une personne et toute personne a le droit de porter plainte. Après, le procureur appréciera s'il poursuit ou s'il poursuit pas. Deuxièmement, dans toutes les procédures, c'est renforcé par la Convention internationale sur le droit de l'enfant, renforcé par la loi de 2001, l'enfant doit pouvoir exprimer son avis sur toutes les choses qui le concernent. Pour l'aide sociale à l'enfant, c'est en 1984. Dans le champ familial, c'est 2001 avec la loi Ségolène Royal. Et puis le troisième point qui est aussi un problème d'actualité, c'est la question de savoir comment s'exprime cette parole. Est-ce qu'il peut être assisté, pas assisté, notamment par un avocat. Deuxièmement, de former, ça a été dit il y a quelques instants, il faut former les professionnels, que sont les policiers, que sont les magistrats, que sont les travailleurs sociaux, à l'écoute. C'est le gros travail qui a été mené dans les années 90 par le centre de formation de la police nationale de Gif-sur-Yvette et par les gendarmes, et c'est le protocole Nitsch de l'ONU. Donc, vous voyez, tout ça montre que sur les 40 dernières années, on a énormément progressé, et pour boucler la réponse à la question que vous me posiez, si on en est loin de la réflexion sur les violences à enfants, c'est pas seulement que grâce à des gens comme Pierre Strauss, la FIREM, etc., on a pris conscience des violences faites aux enfants, c'est parce que les victimes ont enfin osé parler, et que nous, on a débouché les oreilles. Et dernier élément qui est absolument essentiel, la parole de l'enfant, c'est pas que les mots qu'il prononce, c'est sa posture, c'est son corps. En souhaitant, bien sûr, que ce ne soit pas la morgue, qu'on doive analyser ce que dit son corps.
C'est pour ça que, notamment, elle doit s'interpréter. Magali Lafourcade, la question qui est posée en creux, là, à travers ce qui vient d'être dit par Jean-Pierre Rosenweg, c'est est-ce que l'enfant est un sujet de droit ? Est-ce que, peu à peu, on a appris compris qu'il fallait le considérer comme un sujet de droit. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ?
Alors, il est absolument censé l'être, et la France a ratifié comme l'immense majorité, enfin quasiment l'universalité de la planète, la Convention internationale sur les droits de l'enfant, puisque aujourd'hui il n'y a que les États-Unis qui ne l'ont pas ratifié.
Ils sont pas prêts de ratifier, moi.
Oui.
Ils sont pas prêts de le ratifier.
Voilà,
sans doute.
Cette convention de 1989, qui est en plus la convention la plus mobilisée devant les tribunaux français. Pour autant, moi, j'ai pas le sentiment que on ait encore vraiment intégré cette idée que l'enfant est sujet de droit.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, être un sujet de droit ?
Il y a un certain nombre de droits qui sont reconnus à l'enfant, mais on n'a pas vraiment défini un statut de l'enfant dans notre droit, un statut juridique. C'est le mineur qui est sous l'autorité de ses parents. C'est mieux que le meuble, mais on est quand même très loin d'avoir des droits qui sont pleinement définis. Alors bien sûr, comme l'a rappelé Jean-Pierre Rosenberg tout à l'heure, on a fait d'énormes progrès. Pour autant, on est encore très loin du but. Et la France, quand elle est examinée par le comité de l'ONU sur les droits de l'enfant, et régulièrement rappelé à la mise en œuvre des droits. C'est-à-dire qu'il faut que dans toutes les politiques publiques, on les mette en œuvre, et au premier chef, au niveau des familles. C'est-à-dire que dans la famille, il faut aussi reconnaître que la parole des enfants doit être comprise, soutenue, etc. Et aujourd'hui, il y a un mot qui peine à émerger dans le débat public français, c'est le mot d'infantisme. L'idée que parce qu'on est un enfant, donc moins de 18 ans, on n'aurait pas le droit à une conscience politique.
Discrimination générale à l'égard de l'enfant.
Exactement. Et ça, c'est encore très très loin d'être admis.
Je voudrais vous faire réagir à ce que dit Frédéric Benoît, il est avocat de l'association La Voix de l'Enfant, et s'exprime là encore dans l'affaire Joël Le Scouarnec.
La Voix de l'Enfant souhaite aussi que l'État assume enfin ses responsabilités, qu'il s'agisse dans ce dossier du fait des défaillances de l'autorité judiciaire, des autorités de santé, qui ont permis d'une certaine manière à M. Le Scouarnec de poursuivre son parcours pédocriminel pendant des années, pendant 30 années, alors qu'il aurait pu être interrompu dès 2004 si les autorités judiciaires et les autorités de santé avaient agi comme elles auraient dû le faire. Mais aussi, globalement, la Voix de l'Enfant dénonce une insuffisance assez criante de la politique de protection de l'enfance en France, et notamment en matière de pédophilie, où on est très en retard par rapport aux autres pays européens, qu'il s'agisse de l'Angleterre ou de l'Allemagne. On fait de la sanction, on fait de la répression, mais le dossier en est l'illustration. On le fait mal. Beaucoup de plaintes déposées au nom de jeunes enfants n'aboutissent pas. Donc la répression ne marche pas. Et surtout, la prévention est inexistante.
C'est un décalage qui est exprimé là, sans doute, hein, Jean-Pierre Rosenweg, décalage entre ce que dit la loi, les conventions que l'on ratifie. Hein, l'enfant est effectivement un sujet de droit. Et dans le même temps, dans les faits, c'est très difficile de rendre la chose et les valeurs concrètes.
Vous avez raison, mais là encore, regardons l'ensemble du champ. C'est, j'allais dire, une donnée fondamentale que ça soit un combat pour obtenir une avancée juridique et ça soit un autre combat pour concrétiser au quotidien.
C'est toujours en deux temps.
C'est toujours en deux temps. Le droit du travail en est une illustration fantastique, où les travailleurs se révoltent et se font réprimer par l'armée et par les juges. Et puis, finalement, des accords qui sont passés, des lois qui sont votées, des conventions collectives, et puis il va y avoir un nouveau combat pour la mise en œuvre des droits concrets qui ont été glanés par la génération précédente. Le droit des femmes, c'est extraordinaire. Et vous savez qu'il a fallu attendre 1995 pour que la Cour de cassation condamne le viol entre époux, et 2005 pour que ça soit condamné par la loi. Mmh. Pour les enfants, c'est la même chose. Et avec des contradictions, pour reprendre les propos que vous teniez tout à l'heure sur le statut juridique. Un enfant peut être condamné à partir de 16 ans comme un adulte. On lui retire le bénéfice de l'excuse de minorité et il peut être condamné jusqu'en 2016, c'était la réclusion criminelle à perpétuité, depuis 2016, c'est 30 ans d'emprisonnement. Donc il rentre avec une carte d'identité disant qu'il est mineur, il va être condamné comme un adulte, et on sait qu'une proposition de loi qui est actuellement en débat va accentuer ce processus. Et dans le même temps, considéré comme discernant pour rendre des comptes, il n'a pas le droit de demander son émancipation. On est sur des contradictions extraordinaires. Autre contradiction, mais cette fois-ci positive. Vous savez pas que depuis la loi Kouchner de 2001, un mineur, quelqu'un qui a 16 ans, 16 ans et demi, qui pense avoir le sida, ou elle pense qu'elle est enceinte, ils ont le droit d'aller voir un médecin sans en parler à leurs parents, et de dire au médecin, non seulement je vous interdis de révéler le diagnostic à mes parents, mais je vous interdis même de dire que je suis venu vous voir. L'enfant est une personne, et comme toute personne, il a le droit à la confidentialité des informations qui le concernent. Donc vous voyez, d'un côté il y a des avancées, de l'autre côté il y a des résistances très fortes, parce qu'il n'y a pas eu une réflexion fondamentale sur le statut des enfants. C'est pour ça que nous militons depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Il y a 4 ou 5 ans, on avait fait une pétition qui a été signée par 1000 personnes, notamment beaucoup de parlementaires, pour qu'il y ait un code de l'enfance, qu'on réfléchisse aux droits et aux libertés des enfants, d'où découle leur responsabilité, responsabilité civile et pénale. Et puisque je suis sur responsabilité civile, là encore une information, et vous le savez, comme magistrat, à 4 ans, 4 ans et demi, la Cour de cassation a estimé qu'un enfant qui crevait l'œil de son petit camarade de jeu était civilement responsable, donc devait, je veux dire, indemniser la victime. Mmh. Alors pour l'instant, il n'a pas d'argent, c'est les parents qui devront le faire, et si les parents ne le font pas, il devra le faire comme adulte. Donc à la fois, il a beaucoup de responsabilités, mais il n'a pas de droit.
Il était mentionné tout à l'heure par vous-même d'ailleurs, Jean-Pierre Rosenweg, le fait que désormais un enfant peut se rendre au commissariat pour porter plainte, que c'est possible. Mais comment un enfant peut-il concrètement se rendre dans un commissariat pour porter plainte? Et je pense notamment au cas où il est victime de l'un de ses parents ou même de ses deux parents. Dans cette situation exceptionnelle, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut même imaginer que ce cas puisse exister d'un enfant qui va porter plainte contre ses parents? Magali Lafourcade, et je vous ferai réagir, Jean-Pierre Rosenweg.
Alors, en fait, oui, tout à fait. C'est juste que c'est souvent une démarche assez difficile, hein, déjà en soi, quand on est victime. Et les commissariats ont déjà du mal à accueillir la parole des victimes, ne serait-ce qu'avec leurs locaux, pour pouvoir permettre une confidentialité. Mmh. Vous savez, quand vous ne rentrez pas comme ça, il faut déjà dire pourquoi au plaintier ou à la plaintière qui est de permanence. Donc, c'est pas simple. En revanche, il y a les numéros d'urgence, il y a donc des tas de moyens qui sont plus faciles pour les enfants, donc le 119, pour pouvoir expliquer qu'on est face à une situation difficile. Et ensuite, il y a toute une chaîne qui doit se mettre en mouvement pour pouvoir permettre les meilleures conditions possibles pour accueillir la parole de l'enfant.
Mais est-ce que les enfants sont capables de dire, par exemple, qu'ils ont été victimes? Est-ce qu'ils sont capables de décrire? Est-ce qu'un enfant peut... C'est par exemple ce que démontrait tout le procès le Squarneck. On dit rarement « j'ai été violé » quand on est enfant. On explique très rarement les choses d'une manière aussi directe. Donc il faut que les professionnels policiers notamment soient familiarisés à cette interprétation du discours et du témoignage de l'enfant.
Ah oui, mais c'est une énorme avancée qui a été faite sur les 40 dernières années, j'en suis un témoin vivant, que on s'est amélioré dans l'interprétation des propos dits ou non dits des enfants, des attitudes. Pour parler de procédure judiciaire, autant jadis, les policiers résumaient en 10 lignes, en 20 lignes, les propos d'un enfant. Aujourd'hui, ils décrivent son comportement. Un magistrat qui lit une procédure policière d'aujourd'hui, il a l'impression d'être dans la salle d'audition. Il ressent.
Donc il décrit, comme vous le disiez un peu plus tôt, le corps, les mouvements, les silences.
Les silences, les attitudes, et ça. Et il utilise, on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails, des objets transitionnels, les poupées, d'autres choses. Même Carole Mariage, Thierry Thérault, Bagif sur Yvette avaient inventé un dispositif qui faisait que, pour faciliter la parole des enfants, on laissait l'enfant choisir son interlocuteur. On le recevait à trois, avec un jus de fruits et quelque chose, et au bout de quelques instants, l'enfant choisissait un interlocuteur privilégié. Les deux autres se retiraient, c'est lui qui parle avec lui, etc., etc. Depuis, il y a une procédure internationale qui a été adoptée par l'ONU après les travaux du Bureau international des droits de l'enfant. Bon, mais peu importe, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il est possible... plus que par le passé, aux enfants d'exprimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voire parfois même de parler, de dire les choses avec leurs mots à eux. Et vous parliez de l'affaire Doutreau tout à l'heure. L'affaire Doutreau, ce n'est pas le problème des mensonges des enfants, c'est la question de l'incompétence des policiers, magistrats et autres qui sont intervenus dans cette histoire pour interpréter ce que disaient, ce que disaient pas les enfants. Les enfants disaient leur vérité. Et puis, dernière chose qui est...
Je vous coupe, parce que justement, on va parler de l'affaire Outreau, et je vous laisserai poursuivre après ce raisonnement et le fil de votre raisonnement. La parole est donnée à cette affaire qui a marqué l'opinion et la justice française, l'affaire Outreau.
Interroger un enfant, c'est très compliqué, et c'est très difficile. C'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué et de plus difficile. Donc, pour nous, ça va être un exercice extrêmement compliqué. Ces enfants sont à la fois des victimes de faits gravissimes, et en même temps, il raconte des balivernes. Il y a le tri à faire.
J'ai été traité de menteur, de manipulateur, d'affabulateur. Moi, je suis convaincu encore aujourd'hui, et je le sais, que ça a existé. Peut-être qu'un jour, on le découvrira et ça remettra un peu la vérité en place. Mais en tout cas, moi, je sais que ça a existé et j'y crois dur comme fer.
La voix de Jonathan Delay, il a été reconnu victime de viol par 4 adultes dans le dossier Outreau en 2015. Jonathan Delay est venu porter plainte pour la première fois des accusations contre Daniel Legrand. Jonathan Delay affirme qu'il a été violé, lui ainsi que ses 3 frères, mais il s'est heurté à des souvenirs trop flous, hein, selon la justice. Magali Lafourcade, qu'est-ce que cette affaire-là a transformé aussi dans le rapport que les magistrats entretenaient avec la parole de l'enfant et dans son recueil par ailleurs?
Alors ça a été vraiment un cataclysme, hein. Je pense qu'on peut qualifier comme ça cette affaire. Il y a eu un avant et un après dans la justice. Donc moi je suis des générations de magistrats postérieurs à l'affaire d'Outreau où on a été vraiment marqué par le fait de voir aussi un juge d'instruction au banc des accusés dans une commission d'enquête parlementaire. Et donc il y a un peu un saisissement des magistrats après ça, dans l'idée que il faut faire extrêmement attention quand on prend la parole des victimes de viol, et en particulier quand elles se sont des mineurs. Et alors que cette affaire a été analysée et qu'il y avait énormément d'éléments dont qu'on peut tirer, je crois que c'est vraiment l'élément le plus central qui est resté, c'est toutes les précautions qui entourent le recueil de ce type de parole. Il en ressort que, d'un point de vue des statistiques, on a vu une baisse assez forte du nombre de condamnations pour viol après cette affaire, puisque dans l'Infostat Justice 2018, on a eu une baisse de 40% du nombre de condamnations pour viol.
Enfants et adultes.
Enfants et adultes, donc dans cette période postérieure à Outreau. Aujourd'hui, on n'a pas de nouveau Infostat qui permet de nous montrer quelles sont les données, mais quand on prend annuellement, les chiffres seraient en train de remonter un petit peu. Et ça, c'est sûrement la marque de cette angoisse du professionnel de mal faire. Et encore une fois, quand on est face à des adultes accusés par des enfants, il y a un équilibre à trouver donc en termes de posture professionnelle, sur le fait que si vous donnez du poids à la parole de l'enfant, ça veut dire que vous allez porter probablement, rien que par votre enquête, un préjudice à la réputation de l'adulte. Et on a trop souvent tendance à mettre la protection de l'enfant et sa parole en dessous de la réputation de l'adulte. Et c'est ce qu'on voit avec l'affaire Le Soirnec, hein, c'est très net. C'est ce qu'on voit aussi avec l'affaire Betarame. Et ça, je crois que la société est prête à faire ce changement aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à l'époque où vraiment les médias se sont déchaînés, beaucoup de responsables politiques aussi sur ce juge d'instruction qui aurait trop donné de crédit. Mais il faut voir aussi qu'à l'époque il y avait des expertises qui disaient que l'enfant disait vrai. Aujourd'hui, on pose des questions ouvertes. Les expertises ne cherchent plus à savoir si l'enfant dit vrai, mais s'il y a des éléments d'affabulation, de mythomanie dans son comportement, son langage et enfin son expression, qui peuvent être décelés par l'expert. Donc on a complètement changé les missions d'expertise, on a changé notre canevas d'audition et on a totalement digéré cette période dans une professionnalisation du recueil de la parole avec des policiers formés, avec des protocoles, avec le fait que les auditions sont filmées, tout un ensemble de choses qui permettent de sécuriser ce témoignage qui est extrêmement précieux.
Est-ce que c'est ce que vous constatez ou est-ce que vous avez constaté cela aussi, Jean-Pierre Rosenweg, les professionnels ont dans la foulée de cette affaire Outreau, ils ont eu peur de mal faire, de mal agir, de mal juger.
Et pour cause, puisqu'ils avaient été mauvais à Outreau. Enfin, il faut oser le dire. Enfin, ça a été dit déjà. Mais dans l'affaire d'Outreau, les policiers, les magistrats, les experts, les journalistes, les avocats, ont tous été mauvais. Tous. Et heureusement qu'il y avait 13 accusés. Et heureusement que l'un d'entre eux, vous savez que l'un d'entre eux s'est suicidé, mais qu'un autre s'est accusé de meurtre. On n'a jamais trouvé le cadavre de l'enfant qu'il prétendait avoir tué. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais alors pourquoi s'accuse-t-il de quelque chose qui est encore plus grave? Et c'est là où l'affaire a basculé. Tout ça pour dire que dans cette affaire, et en entendant les conséquences que ça a pu avoir, si effectivement on a moins entendu la parole des enfants et des victimes en général dans la période post-Outreau, c'était quelque part pour exorciser les fautes qu'on avait pu commettre, policiers, magistrats, journalistes, avocats, experts, etc.
Avec des victimes qui n'ont pas été reconnues comme telles.
avec des victimes qui n'ont pas été reconnues comme telles. Si, elles ont été reconnues comme telles, les victimes. Si, sur Outreau aussi.
Quand on entendait Magali Lafourcade, non, je parlais du poste Outreau. Magali Lafourcade disait que beaucoup de victimes n'avaient pas été reconnues comme telles.
Après, bien sûr. Et à ce moment-là, on est revenu à une démarche plus saine et plus rationnelle. On s'est dit, bon, on n'a pas été bon sur Outreau. Essayons d'être meilleurs. On a eu la dynamique internationale qui nous a aussi entraînés vers cela. Et quelque part, effectivement, à l'aune de ce qui se passait au Québec, à l'aune de ce qui se passait au plan international, je ne peux pas entrer dans les détails, mais s'il le fallait, j'illustrerai tout mon propos. Effectivement, on a remonté la pente. Les policiers de Gif-sur-Yvette que je citais tout à l'heure, Carole Mariage, et Thierry Thérault ont fait un travail fantastique. Les gendarmes de la Réunion avec la professeure Mélanie l'ont fait aussi. Il y a eu des résistances. La loi a fini par leur donner raison. On a fini par former des policiers à l'écoute, des magistrats à l'écoute. Et aujourd'hui, on a retrouvé un relatif équilibre. Un relatif équilibre. On en est encore loin, bien évidemment. Mais il y a des avancées. Et l'exemple typique d'avancée, c'est la parole, vous le disiez tout à l'heure en entame de votre propos, c'est que de plus en plus on entend la parole à Bétarame, à Lyon et ailleurs des victimes, mais il y a eu aussi toute une série d'avancées techniques qui ont été prises, notamment la possibilité de mener des enquêtes, quoi que l'on sache qu'il n'y aura pas de poursuite pénale. Et c'est la circulaire du Pont-Moretti de 2021 qui, là, est passionnante. Dernier élément pour boucler la réponse à la question que vous posiez tout à l'heure. Non seulement un enfant, c'est une personne de moins de 18 ans, a le droit de venir porter plainte au commissariat toute seule ou accompagnée par la personne de son choix. Difficile d'être accompagné par le père qui l'a violé. Mais deuxièmement, tout enfant a le droit, et depuis 1958, de saisir un juge pour enfant pour dire « je suis en danger ». Physiquement, par écrit, par mail ou autrement.
Je voudrais, Magali Lafourcade, que vous nous parliez de deux affaires bien plus récentes. La première, c'est l'affaire de Pontoise, elle date de 2017. Une fille de 11 ans jouait dans un parc, un homme d'une trentaine d'années lui a alors imposé une fellation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cela a transformé justement dans les conséquences judiciaires? Il faut nous raconter la suite de cette affaire.
Oui, donc cette affaire de Pontoise a suscité une indignation générale dans le pays, puisque cette fillette avait été violée, elle avait 11 ans, et le procureur de Bobigny avait décidé de requalifier Pontoise. On est sur Pontoise. Le procureur de Pontoise avait requalifié en simple atteinte sexuelle sur mineur, et donc ce qui change complètement le...
N'avait pas reconnu le viol.
Non, voilà. Donc, ça change totalement la morphologie de l'affaire. Et là, ça a suscité un tel débat qu'on a commencé à cheminer sur l'idée d'un seuil d'âge dans la loi. Et après, on a eu d'autres affaires à la même époque donc c'était les affaires 2017 qui ont énormément choqué l'opinion publique. Et progressivement, on est arrivé vers l'idée qu'il fallait changer la loi. Or, la loi sur le viol, elle a peu évolué en fait depuis les années 80. Et donc en 2021, c'était Marlène Schiappa qui était alors en fonction. Elle a donc modifié l'article du code pénal qui définit le viol. Pour les mineurs donc de moins de 15 ans, à partir du moment où le majeur avec qui il y a eu un rapport sexuel a au moins 5 ans de plus que le mineur. Et ça, c'est très important, puisqu'avant, il fallait démontrer la contrainte, la violence, la menace ou la surprise, et qu'à partir de cette loi 2021, on n'avait plus besoin de faire cette démonstration.
Il faut savoir... Une présomption de non-consentement.
Voilà, c'est-à-dire que les enfants, en fait, ils sont pour beaucoup sidérés quand ils sont agressés. Même, il y a une étude en Suède qui montre que c'est 70% des adultes et 100% des enfants qui font l'objet d'une sidération, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas psychiquement ou physiquement s'opposer à l'adulte. Et donc, c'est dans ces conditions, c'est extrêmement difficile de montrer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Et dans cette affaire, c'était ce qui avait pu se produire, et donc ça avait suscité une grande émotion.
Jean-Pierre Rosenberg, vous me faisiez non de toutes les façons possibles. Je vous donne la parole.
Oui, parce que pour revenir à votre sujet... Il faut décortiquer les choses. Là, il y a eu deux lois. Il y a eu une loi en 2018 qui était l'exemple typique de ce qu'il fallait plus faire, mais que ne pouvaient pas encore entendre les parlementaires. Ce qui est intéressant, c'est que les mêmes parlementaires qui ne nous ont pas entendus en 2018, les mêmes en 2021, nous ont entendus. Alors en 2018, ils ont posé, comme vous l'avez dit, une présomption relative de non-discernement en disant quelqu'un qui a moins de 15 ans ne peut pas avoir donné son discernement.
Pourquoi relative ?
j'allais le dire, relatif parce que effectivement, l'accusé va pouvoir tenter d'apporter la preuve qu'il y avait consentement. Et on reste sur du subjectif. Elle m'a séduite. Il faut se souvenir que la petite jeune fille de Pontoise en 2011, elle était assez grande, assez bâtie, etc. Et le procureur de la République, il savait qu'il y avait viol. Mais il a fait le constat suivant, il s'est dit, si elle va aux assises avec la loi telle qu'elle est, l'accusé va réussir à convaincre les jurés que c'est lui qui a été séduit par la gamine. Donc je préfère jouer gagnant en allant devant les trois juges professionnels de la correctionnelle. La sanction sera peut-être moindre, mais je suis sûr qu'il y aura une sanction. En fait, il a voulu la protéger, mais le message n'a pas été compris, et on lui a dit, vous banalisez des faits de viol en les correctionnalisant. Madame Siab, deuxième affaire à Melun, quelques semaines après, de la même nature, où là, pour le coup, c'était plus grave, puisque le président des Assises ayant oublié de poser la question subsidiaire des atteintes sexuelles, non seulement l'accusé n'a pas été condamné pour viol, mais a été purement et simplement relâché. Alors, une loi, Madame Siapa a dit à ce moment-là, moi vivante, plus jamais ça, on va voter une loi, et on va poser une présomption qu'avant 13 ans, dit-elle, le président de la République est intervenu, avant 15 ans, il n'y aura pas consentement. Sauf que ça pouvait être qu'une présomption relative. Et ce qui devait se passer, s'est passé, dans un procès qui a eu lieu quelques temps plus tard, il y a eu le même type de non-condamnation. Et donc, on en est venu à la proposition que nous avancions déjà au Conseil national de la protection de l'enfance dès 2017-2018, qui était de quitter le débat sur le consentement, mais de venir dire tout simplement qu'un adulte n'a pas le droit d'avoir une relation sexuelle complète, donc une pénétration si vous le voulez, avec une personne de moins de 15 ans. C'est un fait objectif.
Pourquoi vous précisez complète? Parce qu'elle pourrait être incomplète, non, donc ce serait plus normal, plus moral qu'elle soit incomplète.
Non, pas plus moral, c'est autre chose. Le viol, c'est la pénétration. C'est pour rejoindre le débat tout à l'heure.
Sur la question spécifique du viol.
Nous disions, dès 2018, il faut que ça soit dit que tout acte sexuel sur un enfant, ou pénétrant un enfant, est un fait criminel. On ne mettait pas le mot viol. Est un fait criminel. Et doit être puni de 20 ans. Et c'est ce qui a été obtenu en 2021. Ce qui est intéressant, par rapport à notre débat, on quitte le débat du consentement. L'un a plus de 18, l'autre a moins de 15. Et il y a un acte objectif. On est sur l'objectivisation. Il n'y a plus de débat sur « elle m'a séduit, elle a consenti », éventuellement pour les circonstances aggravantes. Le type aura pu venir dire « bon, ouais ».
On se concentre sur le fait, sur le résultat.
Sur le fait.
Magali Lafourcade.
De toute façon, il n'y a pas de consentement, même dans la définition du viol actuellement. Donc, pour les adultes, je veux dire. Donc, prouver la contrainte, la violence, la menace ou la surprise, c'était quasiment impossible, en fait. Et donc, ça a simplifié énormément le fait de pouvoir entrer en voie de condamnation.
Depuis le début de notre conversation.
Et le slogan, c'est maintenant, touche pas à l'enfant. T'as plus de 18 ans, la moins de 15 ans, t'y touches pas.
Depuis le début de notre conversation, on parle de deux affaires d'actualité, hein, l'affaire le procès, le Squarneck, l'affaire Betaram, tout en parlant du recueil de la parole de l'enfant. Or, dans ces affaires, il s'agit bel et bien d'adultes qui ont été victimes en tant qu'enfants. Est-ce que là encore, il y a une singularité dans le recueil de la parole d'adultes qui ont été victimes en tant qu'enfants, et notamment parce que les faits datent quand même, j'imagine, très souvent de plusieurs décennies, Jean-Pierre Rosenweg?
Oui, c'est pas évident, et j'étais membre de la CIAZ, la commission indépendante sur les violences sexuelles à l'encontre des enfants. Le titre officiel, c'est abus sexuel, mais je pense qu'il faut pas parler d'abus sexuel s'agissant des enfants. Ce sont des violences. Mais ça, c'est mon point de vue. En tout cas, j'étais membre de cette commission avec un ami magistrat, Antoine Garapon, pour ne pas le citer. Nous avons été amenés à auditionner un monsieur qui avait notre âge, et qui arrive à la maison des avocats où nous étions, en Santiago, en jean, en blouson, avec son sac sur l'épaule, d'un regard avec mon ami Garapon, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est venu faire là? Le type, il nous dit, j'ai été père de famille, j'ai eu trois enfants, j'étais chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on est venu faire? Le même, trois quarts d'heure plus tard, il était en larmes, en train de nous expliquer ce qu'il avait vécu 65 ans plus tôt, dans une institution religieuse, si vous le voulez. On a créé les conditions, il avait envie de parler, et on a créé les conditions pour qu'il puisse parler. Et il nous a dit que pendant effectivement 60 ans, il avait été amené à vivre avec ça. Et c'est un des faits politiques modernes les plus importants sur cette question. J'en sais quelque chose, c'est moi qui rédigeais les circulaires sur l'enfance maltraitée en 1983. On ne parlait pas d'inceste, parce qu'on n'était pas capable d'offrir une réponse à ces sujets. Aujourd'hui, on sait, travail de l'INSERM 2015, que 3 millions de Français disent avoir été victimes d'inceste le temps de leur enfance, 5,5 millions victimes de violences sexuelles, dont 3 d'inceste. Ça, c'est quantitatif, mais qualitatif, c'est ça le progrès, l'idée nouvelle, c'est qu'on mesure désormais l'impact que ces violences ont pu avoir sur la vie des gens. Je donne une anecdote, Yves Troudy, en 81, revient de commissariat, où elle est allée parler avec des policiers du viol de femmes. Et elle nous dit, les policiers lui ont dit, Madame la Ministre, Avec une bonne douche, on n'en parle plus. À l'époque, avec une bonne douche, on n'en parlait plus. Maintenant, avec le traumatisme, on sait que ça revient à une question que vous posez tout à l'heure, on peut enfuir le traumatisme. Pour moi, qui suis un cartésien, je ne peux pas imaginer qu'une femme qui a été violée oublie qu'elle a été violée. Bah, pourtant, c'est la vérité. Et ça, on l'a découvert dans les dernières années.
Magali Lafourcade, comment est-ce que l'on fait progresser les choses maintenant, et notamment sur le plan politique? Est-ce que l'on peut prendre appui, pour exemple, le combat féministe? Est-ce que des parallèles sont possibles? Je pense notamment à la question du féminicide, le rapprochement avec la notion d'infanticide. Est-ce qu'il y a deux rapprochements possibles entre ces deux combats?
Moi, je le crois profondément. Je me suis beaucoup engagée sur le fait de parler du féminicide, de sortir les féminicides du fait divers pour en révéler la part structurelle. Et je crois qu'il faut faire la même chose pour les morts violentes d'enfants. Donc moi, je ne parle pas d'infanticide parce que je trouve que ça convoque un peu l'affaire Courgeot, donc les bébés. Ça évoque vraiment le néonaticide. Donc ce serait plutôt les morts violentes d'enfants qui serait un terme qui me conviendrait mieux, mais je crois que comme les ressorts psychologiques ou criminologiques des auteurs sont à peu près les mêmes, on sait aujourd'hui que l'endroit le plus létal pour une femme, c'est la maison, dès lors qu'elle partage ce lieu avec un homme. Je crois qu'il faut évoquer cette dimension-là pour les enfants. Aujourd'hui, on a des statistiques qui montrent qu'il y a tous les deux jours et demi une femme qui meurt sous les coups de son conjoint, alors quand on élargit avec les tentatives d'homicide, ça fait beaucoup plus, et quand on prend les suicides forcés, on est à 3 par jour, hein, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur et de la MIPROF, la mission interministérielle sur la protection des violences faites aux femmes. Et pour les enfants, on est à 5 par 1 tous les 5 jours. Or, on a tout lieu de penser que ce sont les mêmes ressorts, et qu'en fait c'est un défaut de prise en compte de plein de morts violentes qui sont passées sous le radar comme étant des accidents. Et il faut un comptage public comme on le fait aujourd'hui pour les féminicides. Donc on voit la trajectoire qu'on a réussi à mettre en place pour les féminicides, on peut avoir la même trajectoire pour les infanticides. Le seul problème de ce rapprochement, c'est que ça invisibilise les violences commises par les femmes elles-mêmes sur leurs enfants.
Je voudrais juste terminer cette émission avec des voix d'enfants. Chacun d'entre eux, vous allez l'entendre répondre à cette question apparemment très simple. C'est quoi un enfant?
C'est quoi? Tu dois dire c'est quoi un enfant?
Pour un enfant, c'est d'être bien sage, et d'écouter les professeurs, et d'écouter les adultes et les parents.
Les enfants, c'est comme ils vont au parc, ils sortent avec leurs parents, ils font des puzzles.
Vous diriez que c'est quoi pour vous être enfant?
Avoir des beaux souvenirs, jouer, voilà.
Pour être enfant, c'est être dépendant de quelqu'un jusqu'à ce que tu puisses faire ce que tu veux et tout ça.
Ça veut dire quoi être dépendant de quelqu'un?
Par exemple, tu dois faire quelque chose, par exemple quelque chose un peu grand, un peu exagéré. Tu dois demander la permission, tu pourrais pas faire ça sans juste parce que tu as envie de le faire comme ça.
Extrait du LSD intitulé « Les enfants peuvent-ils parler ?» Un documentaire signé Clément Salazar, réalisé par Anne Fleury. Jean-Pierre Rosenweg, d'un mot.
Un enfant, article 1 de la Convention internationale sur l'enfant, c'est une personne. C'est-à-dire quelqu'un de chair et de sang, qui a des états d'âme, qui doit être protégé physiquement, mais qui peut aussi exprimer des convictions, qui a moins de 18 ans. Et qui est donc, par exemple, a le droit de choisir sa religion.
Merci à tous les deux, Magali Lafourcade, Jean-Pierre Rosenweg. Mmh.